Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
Les câliner, les dorloter ou presque les humaniser. Beaucoup de choses sont permises lorsqu'il s'agit de nos animaux de compagnie. Dans le monde entier, ils font battre le cœur des propriétaires de plus de 75 millions de chats, de chiens, d'oiseaux et de petits mammifères, rien qu'en France. Et parce qu'il est si agréable d'avoir un animal de compagnie, Médor, Vanille ou encore Félix sont souvent à l'origine de nos mots de passe sur l'internet pour le plus grand plaisir des petits malins. Les résultats d'une étude de Keeper Security sur les mots de passe ne sont pas de bon augure pour la sécurité des informations sensibles. Selon une enquête menée auprès d'entreprises, 24,47% des personnes interrogées utilisent le nom de leur animal de compagnie comme mot de passe. Rex, le chien de garde, doit donc non seulement protéger son maître et ses biens, mais aussi les données de l'entreprise. C'est risqué. L'utilisation de mots ou de noms plausibles qui peuvent facilement être associés aux habitudes et aux préférences des employés n'offre pas de réelle sécurité, contrairement aux mots de passe cryptiques recommandés, avec des lettres majuscules et minuscules, des caractères spéciaux et des chiffres. C'est comme si Rex grognait mais laissait finalement tous les étrangers entrer dans la maison sans être inquiétés. Juste un petit conseil du meilleur ami de l'homme. Wouf!
Calade.
Ma radio.
L'info locale et régionale.
Rassemblement du collectif d'hébergement en danger ce 14 février, un cri d'alerte au manque de places d'hébergement d'urgence grandissant chaque année. Pour nous en parler, Noah, travailleur social et membre du collectif.
Alors, le collectif hébergement en danger, ce sont des travailleurs sociaux, tout simplement. Juste des personnes qui travaillent dans le social. Alors, les raisons de cette mobilisation, elles sont à peu près les mêmes que les raisons pour lesquelles on avait fait une manifestation le 14 décembre 2023. Où, je rappelle, on a été plus de 700 travailleurs sociaux ou personnes à manifester, ce qui est énorme, en fait. C'était quelque chose qui n'avait jamais été fait dans le Rhône. Voilà, comme ça, ça peut paraître peu, mais pour des professionnels du social, c'est une grosse mobilisation, ce qui montre bien que, en fait, on lance un cri d'alerte, dans le sens où, clairement, actuellement, les personnes mettent beaucoup trop de temps à être hébergées et, justement, restent beaucoup trop de temps à la rue. Et nous, on voulait rappeler que la rue cause des traumatismes, précarise davantage les situations des personnes et finit aussi par tuer.
Un système, en quelque sorte, puisque ces personnes se retrouvent à la rue complètement saturées, finalement, en mode d'hébergement, j'imagine.
Un manque d'hébergement, en situation de précarité, avec des situations qui peuvent agir sur la vie de famille, d'enfants, de nourrissons, puis de personnes qui sont laissées seules, en fait, qui doivent à chaque fois, du coup, recourir à des travailleurs sociaux. Chose que nous, on doit mettre en place. En fait, les personnes s'appuient totalement sur nous. C'est très, très compliqué parce qu'on n'a pas forcément de solution à leur proposer.
Où se trouvent les réponses?
La réponse, en fait, c'est simple. Ça sera plus de places d'hébergement mises à disposition par la métropole, par la préfecture, qui permettent, en fait, tout simplement d'héberger les personnes à la rue. Par exemple, dans le Rhône, même dans la France, il y a un site internet qui s'appelle le SIAO. Donc, si vous voulez, il y a 15 ans, les personnes arrivaient devant les structures et pouvaient frapper à la porte pour savoir s'il restait une place. Maintenant, ça se passe pas du tout comme ça. C'est les personnes doivent faire un diagnostic social. Donc, ça peut être fait dans des accueils de jour, ça peut être fait à la métropole, ça peut le faire par des travailleurs sociaux. C'est juste histoire de s'enregistrer auprès de la maison de la veille sociale et qu'il y ait une demande d'hébergement qui soit en cours. Une fois que la personne a fait ce diagnostic, en fait, elle doit attendre d'être orientée. Et cette attente, elle est extrêmement longue. Dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, qui est la première porte d'entrée pour certains, ça va prendre un an et demi minimum, voire 2 ans, voire 3 ans. Moi, je travaille dans ce genre de structure. Il y a des personnes qui arrivent avec des diagnostics de 3 ans. Pareil pour l'hébergement d'urgence, ça va encore plus loin. Dans le sens où, normalement, la métropole, par exemple, accueillait les enfants de moins de 3 ans. Maintenant, ce n'est plus obligatoire. On est toujours sur quelque chose où on ne sait pas trop. Il y a des manques de financement. Donc, la fois, il y a des places à l'hôtel qui étaient mises en place. Maintenant, on ne sait plus. Si c'est un couple avec un enfant, ils vont prendre la mère, mais pas le père. Pour des personnes qui vont être isolées ou même votre famille, pour l'instant, des fois, on n'a pas de réponse. Ça veut dire qu'on ne sait pas combien de temps ils vont rester à la rue. Il y a des personnes à la rue qui se voient passer énormément d'années. Il faut savoir qu'en fait, il y a, en plus de ce problématique de passe, parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui attendent, il y a toute la problématique, en fait, de la mort à petit feu des services publics. Et ça, on le retrouve dans nos institutions.
Un système saturé, triant toujours plus pour précariser davantage.
C'est-à-dire que nous, on a beaucoup de personnes qui viennent de l'aide sociale à l'enfance, donc qui viennent déjà d'une prise en charge qui a été faite par l'État, c'est-à-dire des jeunes qui sont en foyer, qui se retrouvent à la rue ensuite, donc ils réenflouent les places. Ensuite, on se retrouve avec des personnes qui sortent de la psychiatrie, parce qu'il faut savoir qu'en 2019, toutes les places longue durée en psychiatrie ont été supprimées. On se retrouve avec des personnes vieillissantes à la rue de plus en plus, parce que justement, en fait, ils sont plus pris en charge. On se retrouve avec des problématiques de santé. Ça vient aussi de l'hôpital, puisque la période d'hôpital remet à la rue très vite maintenant.
Pour manque de place, exactement.
On a une préfète qui, justement, remet la faute sur les étrangers, alors que même la préfecture du Rhône est une des plus dures en France pour pouvoir régulariser les personnes. C'est-à-dire que la réponse de la préfecture, c'est de dire qu'il faut une fluidité de l'hébergement. C'est-à-dire qu'il faut sortir les personnes qui sont dans l'hébergement vers du logement plus vite pour qu'il y ait des places qui se créent plus en hébergement. Sauf qu'en fait, on est bloqué parce que déjà, il y a beaucoup d'institutions médico-sociales qui n'existent pas en France. Donc, il y a des personnes qui errent dans le social. Comme je disais, hein, personnes vieillissantes, psychiatrie, problèmes de santé. Et on a des personnes, en fait, qui pourraient être régularisées, qui ont toutes les conditions pour, mais la préfecture, le temps de leur donner des rendez-vous, le temps de leur donner accès à leurs droits, ça met beaucoup trop de temps.
Et enfin, la saturation des dispositifs d'hébergement d'urgence.
Il faut savoir que, normalement, quand on appelle le 115, il y a aussi des dispositifs d'urgence. Donc c'est juste pour vous montrer un peu l'étendue du problème. Normalement, quand on appelle le 115, ça veut dire que des femmes, des hommes, des couples peuvent être hébergés, normalement. Donc là, il y a un dispositif à Lyon qui s'appelle la halte de nuit. Il y a 57 places, alors que chaque jour, il y a plus de 1300 appels au 115. Donc il y a 57 places où des personnes sont obligées d'appeler tous les jours à une certaine horaire pour se voir refuser l'accès. Et ils peuvent être hébergés souvent une fois tous les 4 jours, une fois tous les 5 jours, parce que justement, il n'y a pas de place. Donc c'est juste un moment de répit très rapide, parce que en fait, il n'y a pas de place, il n'y a pas d'autre structure pour les accueillir dans cette urgence-là.
Une crise sans précédent pour le collectif Hébergement en danger. 14 000 personnes dans le Rhône sont en demande d'une solution de mise à l'abri. 50% de plus qu'il y a 5 ans. Il n'est plus possible de leur répondre que la solution arrivera dans 5 ans. Délai pour obtenir un logement social, déclare le collectif. Plus de 1200 personnes appellent le 115 chaque jour et se voient refuser une mise à l'abri. Rassemblement du 14 février du collectif Hébergement en danger, prévu à 18h30 sur la place de la Comédie, Lyon 1er. Voyage d'études et de la mémoire à Auschwitz en Pologne pour 119 collégiens de cet établissement scolaire du Rhône, à l'initiative du département du Rhône. Les raisons de leur implication pour la principale du collège Laurence Ruby et la professeure d'histoire-géographie Margot Pierre, accompagnée des témoignages de Thomas, Lola et Mathias, des collégiens du Rhône présents sur le voyage.
Laurence Ruby, avec un I. Je suis la principale du collège des Pierres Dorées du Val-d'Oin. Ce qui me semble intéressant, en tout premier lieu, pour tout projet d'ailleurs, toute sortie, tout voyage, on reproche beaucoup à l'école d'être un peu coupée du monde, coupée de l'extérieur, d'être un peu en vase clos. Ils apprennent énormément de choses en classe. Sur cette question-là, qui est une question délicate, ancestrale, ancienne, mais aussi d'actualité, revenir sur les lieux de cette horreur, c'est quand même la concrétiser, surtout à une époque où il peut y avoir du négationnisme. C'est vrai que quand on assiste à l'orage et au mien, c'est la première fois que je viens à Auschwitz, au spectacle, à la preuve de ce qui a pu se dérouler, on se répète, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce que je trouve très intéressant là, en tout cas, c'est le professeur. On a pu mesurer à quel point elle les avait bien préparés à ce voyage. Il y a eu une vraie gravité, un véritable intérêt, pas une curiosité malsaine. Ils ont compris, par exemple, tout l'intérêt qu'il y avait de ne pas utiliser le téléphone, que ce n'était pas un voyage touristique, mais véritablement un voyage de mémoire.
Alors, nous sommes dans le car de retour. Hein, on va prendre l'avion, on est tous là. Hein, c'est pour ça qu'on entend le moteur du bus. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'on va revenir, effectivement, témoigner au collège?
C'est toute la question que l'on se posait là sur le retour. Le professeur, de son côté, va redistribuer d'autres textes d'auteurs et de témoins parce que Il est difficile, je pense, à leur âge, peut-être, de mettre des mots sur les impressions qui ont été les leurs. Donc, il y aura ce retour-là. En tant qu'ancienne professeure de lettres, je pense que là aussi, j'aurais fait travailler les élèves assez rapidement au retour sur des textes.
J'ai bien aimé le voyage. Ça m'a perturbé parce que c'est tragique. Et voilà.
Moi, ça m'a plu le voyage. Mais c'est juste que je me suis dit qu'à côté, il y avait quand même une histoire qui était triste en allant à Juillet. Du coup, j'étais un peu moins contente. Mais sinon, oui, ça m'a bien plu ce voyage.
Le camp de concentration qu'on a vu ce matin à Auschwitz.
Oui, et aussi peut-être de regarder, de rentrer dans les pièces et de voir que leur confort, ils n'étaient vraiment pas adaptés pour des humains. Oui, je pense que ça peut être très intéressant parce que quand on est en cours, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui peut se passer là-bas. Donc quand en fait on y va en vrai, on peut remarquer que c'est réel et que c'est pas... Voilà, c'est réel.
Oui, je suis d'accord avec elle. Ça peut être intéressant pour eux aussi. Donc voilà. Nathanaël.
Lola, collège des 80, à Savigny, enfin à Larbrel.
Madame Pierre Margot, enseignante d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique au collège des Pierres d'Oran. Alors moi j'ai pris la décision en effet de préparer mes élèves en fait en amont. En fait j'ai les élèves qui ont participé à ce voyage, c'est des élèves qui se sont volontairement inscrits à des concours d'histoire en lien avec justement le travail de mémoire, que ce soit le concours national de la résistance et de la déportation ou le concours de la maison d'Isieux. En fait ces élèves ont montré dès le début de l'année un amour assez important pour l'histoire et donc ils étaient assez passionnés dès le début de l'année et ils sont tout de suite lancés dans ces concours-là. Et donc j'avais en même temps j'avais inscrit du coup le collège pour ce voyage mémoriel. Donc après du coup les élèves ont passé des entretiens de motivation juste sur la motivation savoir pourquoi ils avaient envie de participer à un tel séjour. Et ça fait environ un mois qu'on travaille toutes les semaines en fait toutes les semaines entre midi et deux, où on a travaillé beaucoup du coup l'histoire du ghetto de Cracovie, l'histoire des juifs de Cracovie. En fait le but c'était d'essayer de leur montrer comment on passe de l'idéologie à l'aspect législatif, à après les violences, les persécutions et la mise à mort, comment on met en place un génocide, voilà, comment on arrive à partir de l'idéologie jusqu'à la mise à mort et la volonté de détruire à la fois un peuple mais aussi détruire son histoire, sa langue, sa culture, sa mémoire, ses espaces.
J'ai bien aimé le voyage. Ça m'a perturbé parce que c'est tragique et voilà.
Moi ça m'a plu le voyage, mais c'est juste que je me suis dit qu'à côté il y avait quand même une histoire qui était triste en allant à Juillet. Du coup j'étais un peu moins contente, mais sinon oui ça m'a bien plu ce voyage.
J'ai trouvé que c'était très émouvant d'aller sur les lieux justement où 1 million de personnes sont mortes. C'était émouvant du coup de voir donc ces lieux. Donc on a fait deux parties. La partie où il y avait les femmes et les enfants, et de l'autre côté où il y avait la quarantaine, on a aussi fait le crématorium. Et donc je pense que c'est très important de voir ces lieux, parce que ça permet de se rendre compte déjà mieux. Je pense qu'on ne peut pas s'en rendre compte tant que, si on n'a pas vécu ça, je pense qu'on ne peut pas vraiment se rendre compte de ce que les personnes ont vécu. Et puis ça permet aussi d'être les témoins des témoins, de garder toujours ça en tête et de ne pas l'oublier. Surtout quand on voit aujourd'hui la situation en Ukraine ou en Israël. Et c'est important de ne pas...
Tu as été ému par cette journée, hein ?
Oui. Oui. Mathias, du collège Les Pierres Dorées au Bois d'Oin.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.